Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. En cette semaine sainte, un plaisir que d'accueillir celui qui a fondé et dirigé plusieurs formations chorales montréalaises, dont le chœur Catialine, l'ensemble vocal de Montréal et le chœur de Montréal. Depuis 1990, il vit à Aix-en-Provence. Jean-François Sénard et le titulaire des grandes orgues de la Basilique Notre-Dame de Montréal, Pierre Grandmaison, sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Semaine sainte, c'est aussi une semaine assez extraordinaire pour la musique.
Oui, c'est une semaine profonde. Je veux dire, tout le message de la chrétienté est contenu dans la semaine sainte. Donc, ça a suscité des œuvres musicales absolument prodigieuses. Et c'est des œuvres qui devraient ne pas s'entendre seulement au concert, mais qui devraient s'intégrer dans la liturgie au lieu de... d'avoir des cantiques nus, là, n'est-ce pas ? C'est vrai.
Et moi, c'était ma
mission comme maître de chapelle à la cathédrale, quand on m'a engagé, c'était de réintégrer toutes ces musiques qui ont été écrites sous l'inspiration et pour des raisons religieuses et liturgiques, le réintégrer dans la liturgie. Donc, on animait les messes avec la Scola, on chantait une messe de Monteverdi, je tirais du Sanctus, du Kyrie, ce qu'il fallait pour faire chanter à l'assemblée dans le même ton, avec les mêmes notes ou adapté avec les paroles françaises, de manière à intégrer tout ce travail-là. Il n'y a personne qui le fait et c'est dommage. Et ces musiques-là, on les écoute comme des esthètes, on écoute Monteverdi, mais il a écrit ça pour la liturgie.
Mais il est vrai que la chrétienté a donné l'occasion à de nombreux compositeurs d'avoir cette inspiration extraordinaire qui nous ont légué des œuvres formidables.
Absolument.
Qu'on entend, hélas, de moins en moins.
Moi, il y a une anecdote que je voudrais vous conter par rapport à tout ce que Jean-François vient de nous dire. J'étais à un moment donné en visite à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Et évidemment, j'assistais à l'office des moines et il y avait des jeunes qui étaient là, qui arrivaient dans cette chapelle pour la première fois et qui entendaient pour la première fois du chant grégorien, donc chanté par les moines dans la tradition de Solesmes. Et je les examinais, ils m'ont même donné des distractions pieuses. Ils étaient figés. Ils étaient... Et alors après l'office, on m'a dit... On était dans un autre monde. On n'avait jamais entendu cette musique-là qui est pacifiante et qui est priante.
C'est un beau mot, pacifiant.
Et bien entendu.
Et malheureusement, bon, et bien sûr, Concile Vatican II a permis des avancées extraordinaires au plan de la recherche personnelle du spirituel, mais on a laissé tomber aussi choses
absolument
majestueuses.
Absolument.
On pourrait parler longtemps de ça, parce que la participation, on s'imagine qu'il faut absolument chanter pour participer, mais la participation aussi, ça se fait dans l'écoute.
Alors, puisqu'on parle de grandes œuvres, on va tout de suite en entendre une que vous nous proposez.
Et oui, c'est le Dixit Dominus de Handel. C'est une œuvre qui est très difficile. Pourquoi ? Parce que c'est une œuvre que Handel a écrite lorsqu'il était étudiant en Italie. Et il a voulu briller parce qu'on avait jeté un défi à ces jeunes musiciens. Vous ne pourrez jamais écrire une musique que ne pourront chanter et exécuter mes instrumentistes, ces chanteurs. Et il a relevé le défi et ça a donné ce Dixit Dominus qui est une œuvre très difficile techniquement pour les chanteurs, mais il s'est amusé dans cette œuvre à la fois à rendre le caractère religieux et très 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 profond de certains passages, et en même temps dans la musique à certains moments de rigoler, de se moquer un peu de...
Quand vous dites difficulté, quel type de difficulté
des difficultés de vitesse d'articulation en particulier. Donc, dans l'exemple que vous allez entendre, c'est pas le cas du tout. C'est un des moments les plus paisibles de l'œuvre, le De Torrente, qui est magnifique. Voilà.
Et bien sûr, ce sont les archers du roi René, sous votre direction.
Voilà, alors c'est mon orchestre, mais pas dans la formation actuelle. Ils sont sous la forme d'un quintet seulement, à ce moment-là. et la Scola Saint-Sauveur.
On vient d'entendre la Scola Saint-Sauveur, les Archers du Roi René, sous la direction de Jean-François Sénard, qui est avec nous aujourd'hui. Les Archers du Roi René, c'est une formation que vous avez créée.
Oui, que j'ai créée. J'ai enseigné au conservatoire et constaté qu'une fois que des gens étaient formés et avaient des reprises de conservatoire, on les retrouvait malheureusement ailleurs que dans la musique et devaient, pour certains, travailler à McDonald's pour... vivre. Donc c'était absolument aberrant qu'il n'y avait pas de formation à Aix permanente, etc. Donc j'ai décidé de créer un orchestre professionnel qui s'appelle les Archers du Roi René, qui fonctionne, qui donne des concerts professionnels, et etc. Voilà.
Est-ce que vous avez amené cette formation ici au Québec?
Pas encore.
Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour vous allez...
Oui, mais il faut un soutien quand même, ça coûte de l'argent. Il faut un soutien financier. Mais
vous pourrez vous adresser à Pierre Grandmaison peut-être.
Pourquoi? Il est riche, oui.
J'étais millionnaire, bien sûr.
Oui.
Mais de ces échanges, parce que, bon, aussi bien l'un que l'autre, vous voyagez, vous allez jouer dans d'autres milieux. Est-ce que c'est à ce point difficile de pouvoir établir ces échanges au plan artistique?
Non.
Parce que l'émulation, c'est important aussi de savoir comment... Ailleurs, on interprète.
Justement, non, c'est pas difficile du tout. C'est une grande surprise à chaque fois. J'ai un ensemble de voix d'hommes, nous sommes une douzaine et nous chantons ensemble, sans chef, je ne dirige pas, je chante moi-même. Nous sommes allés tout récemment en Hongrie, et nous avons chanté en hongrois, pas tout le répertoire bien entendu, quelques pièces. Mais on a eu un succès fou. Et on a donné en 3 jours 3 concerts devant des publics différents et des gens qui ne parlaient pas le français et qu'on leur a chanté en basque, on leur a chanté en hongrois dans leur langue. Alors ils étaient absolument heureux, en allemand, en italien, en latin, en français. Et c'était à chaque fois, on sentait un partage, une communion d'écoute à ce qu'on faisait. Bon, et bien, on l'a rendu, bien entendu, par des applaudissements puis des félicitations après, après le concert. Ça veut dire que la musique est un langage universel.
Tout à fait.
Et en particulier, ben, le chant choral, parce qu'on véhicule, on parle, on a un texte, on véhicule, on est soi-même l'instrument de la musique.
Alors, on va réentendre une fois de plus la Schola Saint-Sauveur de la cathédrale d'Aix-en-Provence,
oui.
Dirigée sous votre baquette. Quelle est la pièce?
Eh bien, c'est un extrait du Requiem de Jacques Berthier. Peut-être que certains auditeurs connaissent Jacques Berthier pour avoir entendu des pièces liturgiques. C'est un grand musicien de musique liturgique accessible à tout le monde. Et il a écrit aussi des grandes œuvres, dont ce Requiem, qui est assez spécial.
Un mot peut-être pour dire que Jacques Berthier a aussi beaucoup composé pour la communauté de Taizé,
oui,
qui
sûr.
Est alors, bon, c'est une petite communauté monastique, mais qui a fait œuvre utile auprès de la jeunesse.
Tout à fait.
Parce que c'est une communauté écuménique, dit-on.
J'ajouterais que Jacques Berthier est un compositeur d'une très grand sérieux, et je suis très heureux de vous dire qu'à Notre-Dame, on chante aussi de sa musique.
Ah, bien, je suis heureux de savoir.
Non, on chante ça parce que, justement, quand c'est signé Jacques Berthier, on sait qu'on peut y aller en toute confiance.
C'est vraiment très joli. Quand on pense Pied Jésus, on pense souvent à ce Requiem de Gabriel Fauré, qui est devenu très populaire.
Ou celui de Duruflé.
Ou celui et de
parce
Duruflé.
Parce que les pieds Jésus oui. sont...
Et pour Pierre Grandmaison, quand il est question de Duruflé, ça a une connotation bien particulière, parce que vous l'avez bien connu.
J'ai bien connu Maurice et Marie-Madeleine, parce que les deux m'ont enseigné. Et pour moi, Maurice Duruflé, c'était un immense maître. C'était un homme très, très gêné, qui n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait. Vous savez que son Requiem a été sauvé in extremis de la corbeille à papier. Parce que, justement...
Ah oui.
Et parce qu'il n'était pas satisfait. Et alors, c'est quelqu'un qui l'a ramassé. On dit, non, tu jettes pas ça. C'est faux. Et pourtant, Maurice Duruflé, lorsqu'il a composé son Requiem en 1947, alors, il allait voir Marcel Dupré, qui était un très grand organiste dont il était l'assistant avant de prendre la classe d'harmonie, et une autre personne, elle était directrice du conservatoire de Fontainebleau, Nadia Boulanger. Alors, ils allaient les voir parce que, justement, il était tellement perfectionniste. Hein. Alors, Marcel Dupré lui a dit, je ne veux plus te voir, c'est très bien. Et puis, et l'autre aussi a dit, non, je ne veux plus te voir, c'est très bien, fais-toi confiance, c'est ça.
Est-ce que tous les musiciens, interprètes ou compositeurs, sont des obsessifs au plan de la perfection? Quand vous parlez de la corbeille à papier, évidemment, c'était une œuvre majestueuse qui se retrouvait à la corbeille. On veut toujours remettre.
Heureusement que dans son temps, la déchiqueteuse n'était pas inventée.
Non, heureusement. Non, mais bien sûr.
Mais est-ce que vous avez toute cette obsession de la note parfaite, de l'accord extraordinaire?
Non. C'est pas une obsession. Non, c'est une recherche. C'est une recherche permanente, bien entendu. Ouais.
En fait, d'abord, c'est une question de compétence. Quand on écrit... Il faut savoir ce qu'on écrit, hein? Mais après, c'est de savoir comment faire. Alors, il y avait un professeur de composition au Conservatoire de Paris qui avait dit à un de ses élèves qui avait remporté un premier prix de conservatoire en composition, il dit, « Monsieur, je vous félicite, bravo, vous connaissez tout. Maintenant, désapprenez ce que vous avez appris et apprenez à être vous-même. »
Alors, on va faire place à la musique.
Avec Jean-Sébastien Bach, un extrait de la Passion selon Saint-Jean. Et là, j'ai fait ça avec la Scola Saint-Sauveur et un autre chœur, donc qui alternait dans le grand chœur, un chœur amateur aussi, et faisait les chorales et les deux grandes œuvres, les deux grandes pièces du début et de la fin de la Passion, et toutes les parties polyphoniques de dialogue entre l'évangéliste qui, pour moi, était un récitant et non pas un chanteur, et les solistes se faisaient avec la Scola. Voilà. Donc, vous avez ce magnifique choral qui est tout à fait pour le temps où nous sommes.
Thank you.
Et évidemment, ce qu'on vient d'entendre était sous la baguette de Jean-François Sénard.
J'ai pas de baguette. Quand je dirige les chœurs, oui. Si j'ai l'organiste, je n'ai pas de baguette.
C'est une figure de style.
Oui, mais je... Il y a des gens qui dirigent les chœurs avec des baguettes. À ce moment-là, ils s'atrophient.
Vous dirigez comment? Avec vos yeux?
Avec tout. Tout. Oui, le visage, donc les mains, le visage, bien entendu. Je dialogue avec...
Est-ce qu'on dirige un chœur comme on dirige un orchestre?
Alors, voilà. Donc, il y a des... Oui, bien sûr. On dirige. Alors, l'instrument que constitue... un ensemble vocal ou un ensemble instrumental est différent dans sa composition, dans sa structure, et à ce moment-là, il y a une adaptation de la façon de diriger technique. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de faire avec des choristes, puisqu'on travaille au niveau de la voix, on ne va pas faire des gestes au niveau de la ceinture. Par contre, quand on est sur un podium et que les cordes de l'orchestre sont assises, ils sont à la hauteur de notre ceinture, il faut donc avoir les bras bas pour qu'ils puissent voir quelque chose. Sans ça, ils vont lever la tête, ils vont avoir le torticolis. Voyons, c'est des adaptations. Mais on dirige de la même façon, on est soi-même...
Et pour vous, Pierre, quand vous avez à accompagner un chœur ou même un orchestre, vous êtes souvent loin de celui qui dirige.
Quand je faisais notamment des concerts à Notre-Dame avec l'OSM, l'OSM était dans le sanctuaire, oui. Et j'étais à la tribune de l'orgue, alors j'avais un téléviseur, un moniteur pour me mettre en contact avec le chef. Mais ce qui est très important, surtout quand on est à 100 pieds, 200 pieds de l'orchestre, c'est de toujours penser au retard de son, parce que le son met toujours un certain temps avant de se rendre. C'est un défi, ça.
Alors, on va terminer ce premier bloc avec l'extrait des Vêpres, l'ensemble vocal de Radio-Canada à Montréal,
oui.
Dirigé par Jean-François
Les
Sénard.
Les Vêpres de Rachmaninoff.
Les Vêpres de Rachmaninoff.